Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Concertation, consultation, changement de méthode, ce sont les mots-clés en communication politique. On dit les éléments de langage de la rentrée de l'exécutif français. Il faut dire que l'expérience de l'an dernier avec le mouvement des Gilets jaunes et les accusations contre un pouvoir jugé trop centralisé, trop vertical et à l'occasion carrément brutal et arrogant a peut-être fait évoluer l'approche de l'exécutif. Avec le grand débat national, c'est peut-être une nouvelle façon de faire qui a donné quelques pistes pour les relations avec les citoyens, les élus locaux ou les corps intermédiaires, mais toujours en affichant une forte volonté de réformer. L'exécutif est-il enfin à l'écoute? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Arnaud Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en communication à l'Université Paris 2 Assas et auteur du livre La communication politique aux éditions du CNRS. Et Bruno Cotresse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, chercheur au CNRS, au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, où vous êtes également professeur. Et vous êtes auteur avec Anne Muxel d'Histoire d'une révolution électorale 2015-2018. C'est aux éditions Garnier. Alors que ce soit sur la rentrée scolaire, où le gouvernement s'était forcé de dire aux professeurs qu'il comprenait leur malaise et qu'il allait faire quelque chose, sur la grève aux urgences où la ministre de la Santé a dit que ce qui a été déjà fait est insuffisant et que plus allait être fait, sur les retraites où les partenaires sociaux sont ostensiblement consultés après s'être beaucoup plaints de ne pas l'être, on sent bien que l'exécutif met en avant un changement de ton et de méthode. Est-ce que l'année écoulée a fait passer quelques messages, Arnaud Mercier ?
Oh oui, c'est un contestable, et c'est tellement vrai qu'il n'y a pas seulement un changement de façade à travers des discours ou des postures. Il y a eu une réorganisation à l'intérieur même de l'Élysée du service de communication, puisque en fait un de ses bras droits qui était de la campagne, Ismaël Emelien, a trusté toutes ses activités. Là, il y a eu une organisation. Il y a un responsable de la communication. Il y a un responsable du secteur opinion. Donc il a un peu renoncé à l'écosystème qu'il avait fabriqué et qui avait fait son succès pendant la campagne, dont il pensait que ça ferait son succès pendant qu'il gouvernait à l'Élysée, et il s'est remis un peu, j'allais dire, dans le droit commun de ce qui se fait d'habitude à la présidence de la République, et on sent déjà très clairement les premières inflexions. Après, on aura l'occasion d'en discuter, est-ce que ce sont des changements de façade ou est-ce qu'il y a un fond plus substantiel, évidemment, c'est toujours le débat dans ces cas-là, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience qu'il fallait changer des choses, et il y a des choses qui changent.
Bruno Cotresse, vous adhérez à cette analyse ?
Oui, totalement. On peut même dire que lorsqu'Emmanuel Macron propose le grand débat national, il appuie à la dernière seconde sur le siège éjectable avant le crash. On était vraiment à quelques millimètres d'un crash, et Emmanuel Macron a sans doute pris conscience qu'il a été passé très 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 près du crash. Et depuis, on a effectivement des inflexions qui sont aussi des inflexions de style présidentiel. On n'a pas eu, ou très peu, de fameuses petites phrases d'Emmanuel Macron, lui qui en avait fait quelque chose qui était sa marque de fabrique. Il disait qu'il fallait disrupter, qu'il fallait bousculer les habitudes avec des petites phrases. Donc on n'a plus de petites phrases. Il y a aussi globalement un Emmanuel Macron qui est beaucoup plus présent sur les sujets régaliens, la sécurité. Il a aussi une grosse séquence internationale depuis plusieurs semaines, et aussi on le voit mettant beaucoup plus en avant qu'auparavant des ministres qui sont porteurs de dossiers, et en particulier des dossiers très sensibles dans l'opinion sur toutes les dimensions, la santé, les retraites. Donc effectivement, il y a une prise de conscience, une réorganisation et en plus une modification au minimum superficielle, mais déjà c'est très important, du style Emmanuel Macron.
J'ajouterais juste là-dessus que par rapport à l'idée de crash, je pense que ils ont conscience à l'Élysée et Emmanuel Macron lui-même que, étant passé si proche d'une vraie crise pour lui, ils ont réussi à trouver une respiration avec cette idée de débat national et maintenant d'essayer d'incarner cette idée de l'acte 2, d'ailleurs en reprenant, c'est très rigolo, la notion d'acte qui a été prise par les Gilets jaunes, l'acte 2 du quinquennat. Et là, je pense que tout le monde a conscience que pour eux, s'ils ratent cette inflexion de l'acte 2, alors c'est l'échec assuré pour sa réélection. C'est vraiment comme ça qu'ils le vivent. Donc ils le vivent vraiment sur un mode, il va falloir convaincre qu'il y a quelque chose qui a changé dans la façon de faire, parce que sinon, c'est la défaite assurée.
Alors je rebondis un petit peu là-dessus, parce que bon, ce que l'énumération que j'ai faite en début d'émission sur la rentrée, les retraites, les urgences, est-ce que l'insistance n'est pas un petit peu lourde, Bruno Cotterêts ? Sur le on a changé de style, voilà.
Oui, alors c'est de la communication, évidemment, donc il faut faire savoir qu'on a changé de style, il faut aussi le manifester très concrètement, il faut que ça prenne la forme eh bien de séminaires gouvernementaux, de mise en scène, on va dire, de dialogue avec les partenaires sociaux, etc. Évidemment, alors c'est vrai que vous touchez un point qui est très important, parce que le style a changé, le mode opératoire a changé, l'organisation de la communication a changé. Pourtant, on voit que Emmanuel Macron a regagné de la popularité, mais pas non plus de manière extrêmement spectaculaire. On regarde aussi les opinions sur ce que les Français pensent d'Emmanuel Macron. On voit que l'opinion dominante continue d'être le président des riches arrogant. Il a un peu reculé sur ces dimensions-là, notamment sur l'arrogance. Il a peut-être gagné une image de celui qui tient la barre avec courage, de celui qui ose, de celui qui maintient ses orientations. Mais quand même, globalement, l'image d'un président qui n'est peut-être pas complètement à l'écoute des préoccupations et du mode de vie et des problèmes des Français, elle est quand même toujours là en toile de fond.
Ça veut dire que ça se fait sur le temps long, ce genre d'inflexion, Arnaud Mercier. Il faut insister beaucoup.
Absolument, et ce d'autant plus que vous avez créé des marqueurs qui vous ont labellisé et qui vont devenir des étiquettes qui vont être très très durs à décoller. L'idée du président des riches, il y a certains électeurs qui s'en souviendront jusqu'à la prochaine élection et qui continueront à l'affubler de cette étiquette, quand bien même il se serait mis à marcher au plafond en faisant tout à fait le contraire, etc. Il y a quelque chose qui est en termes de communication politique et de gestion de l'image, dont il faut toujours avoir conscience, c'est que ça va très très vite à vous faire coller une étiquette, ça peut aller très très lentement pour arriver à la décoller. Jacques Chirac, on l'oublie, mais dans les années 70, on lui collait l'étiquette du facho.
Facho Chirac, on
voilà.
l'appelait.
Il y avait un sketch de Coluche à la fin des années 70, Chirac, il fait peur. Enfin, vous avez fait écouter ça à des gens quand il était là, le président débonnaire qui au salon de l'agriculture,
le radical socialiste, quasiment.
Voilà, c'est voilà. Le Ratzok, exactement. Personne n'arrive à comprendre comment ça a pu se passer. Et ça a été 10 ans d'effort, et notamment par sa fille, vous voyez. Donc, décoller une image, c'est très compliqué. Et là, Emmanuel Macron, il a durablement inscrit l'idée qu'il était arrogant. Donc, il faut, et là, c'est très difficile, il faut déjà qu'il ne fasse plus. C'est pas seulement parce qu'il va faire, mais c'est déjà parce qu'il ne fait plus. Bruno Cotterêts a souligné que justement il nous épargne aujourd'hui maintenant les petites phrases un peu assassines à destination des Français, mais il a ancré durablement l'idée qu'il menait une politique de droite. Et une partie des électeurs de gauche qui ont voté donc socialistes, pour faire simple, sociaux-démocrates, qui ont voté pour Emmanuel Macron, vont avoir énormément de mal à recroire en la possibilité d'Emmanuel Macron d'incarner cette social-démocratie. Donc vous voyez, ça va être effectivement le temps long.
Est-ce qu'on peut croire, effectivement, après 2 ans de présidence un peu verticale, jupitérienne, Bruno Cotterêts, est-ce qu'on peut croire que cette inflexion va durer ? Parce que le gouvernement, et notamment le Premier ministre, insiste quand même beaucoup sur sa détermination à continuer les réformes.
Oui, je pense qu'au fond, la vérité du style Emmanuel Macron, on l'a sans aucun doute eu au début de son mandat. Il a ce caractère de vouloir gouverner par le haut, de penser que les changements dont aurait besoin la France sont d'une telle ampleur et répondent à des défis mondiaux tellement importants qu'on peut pas lanterner, on peut pas traîner et qu'il faut agir très vite. Donc c'est vrai que le style a changé en partie, je dirais en partie seulement. Par contre, la ligne directrice des politiques publiques mises en œuvre, elle n'a pas changé du tout fondamentalement. La réforme des retraites était quelque chose qui était parfaitement dans le programme présidentiel. Plusieurs des réformes qui vont être discutées aujourd'hui, la mise en œuvre de la nouvelle indemnisation chômage, la réforme de la fonction publique aussi, donc des piliers absolument très 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 important de l'action publique en France. Tout ça a été dans le programme présidentiel. Le rythme est un rythme qui est à peu près celui qui était prévu. Il n'y a que sur la réforme des institutions, où là on est mezza voce, où on a le sentiment qu'on zigzague, on tourne autour de cette réforme des institutions, on revient régulièrement, on en remet une couche en disant oui, on va le faire. Et puis là, on vient de dire que finalement, si les deux assemblées ne suivaient pas, peut-être que c'était pas l'urgence. Mais Emmanuel Macron va avoir à un moment donné un grand rendez-vous avec l'électorat et avec l'opinion. Ça va être des grands paramètres économiques. Voilà, le chômage, les déficits publics. Et là, à ce moment-là, il y aura quand même un grand moment de vérité, de rendez-vous sur les conséquences et sur les effets positifs du macronisme.
Et je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient de dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir pointer une petite musique de l'opposition de droite qui commence à accuser Emmanuel Macron d'immobilisme. Parce que, justement, le fait qu'il mette en avant qu'il veut maintenir le cap, mais que quand même, on va prendre plus de temps, on va consulter, ouvre une opportunité, finalement, à ses adversaires de commencer à l'accuser de, finalement, il est comme les autres, il va reculer devant l'obstacle, etc. Donc, il y a un vrai pari pour lui, c'est qu'il doit, d'un côté, incarner le fait qu'il a pris conscience, il va y aller doucement, etc. Et en même temps, ne pas perdre ce qui avait, dans l'opinion, été gagnant pour lui, du côté de l'électorat de droite. C'était l'idée que, lui au moins, il mettait en œuvre un certain nombre de mesures que la droite n'avait pas...
C'est clair que dans l'électorat du centre-droit, du centre et du centre-droit, il a presque l'image d'un nouveau Giscard d'Estaing.
Exactement.
Le jeune réformateur audacieux, qui ose ce que les autres n'ont pas osé, qui va jusqu'au bout de ses idées, qui bouscule. Donc ça, c'est vrai que c'est un point extrêmement solide pour lui dans l'électorat. Je pense qu'on peut dire que cet électorat, il est maintenant totalement acquis à Emmanuel Macron et ne reviendrait vers un candidat de droite que si effectivement l'échec d'Emmanuel Macron sur les grandes variables économiques qui tiennent au cœur de l'électorat de la droite était avéré.
Dans l'évolution de la communication gouvernementale, il y a aussi le partage des rôles, un nouveau partage des rôles entre le président et le Premier ministre. Hein, on met un peu plus en avant effectivement les ministres, mais également le Premier ministre Édouard Philippe, et je rebondis sur ce que vous disiez par rapport au centre-droit, Arnaud Mercier. Pourquoi cette évolution?
D'abord,
parce
c'est
que
un
le Premier
grand...
ministre incarne le jupéisme quand même. Hein.
Oui,
c'est de là qu'il vient.
C'est vrai, mais c'est déjà un grand classique dans l'histoire de la Ve République.
On est en fondamentaux, c'est ça.
On a les fondamentaux, le fameux fusible du président, comme on a souvent qualifié le rôle du Premier ministre. Et donc, Emmanuel Macron s'est sans doute vu un peu trop beau, trop bien élu, etc., alors qu'il ne l'était pas si bien que cela, si on regarde sa base du premier tour, en tout état de cause, et il a sans doute un peu trop cru qu'il incarnait à lui seul cette idée du mouvement, etc. Et donc, il avait mis un peu sous les teignoirs, il faut bien le dire, le Premier ministre. Et il s'est rendu compte, comme beaucoup d'autres présidents avant lui, que finalement, un Premier ministre, ça pouvait être utile, parce que effectivement, on le laissait aller au charbon sur un certain nombre de choses, perdre un peu en crédibilité et en popularité, et essayer de ce fait de préserver. Même si, il faut quand même reconnaître que là aussi, aujourd'hui, maintenant, à l'ère du quinquennat, parce que cette stratégie du fusible, ça marchait d'autant mieux qu'il y avait le septennat, qu'il y avait cette idée du président un peu arbitre, etc. Le quinquennat a fait que le programme du candidat à la présidentielle est de fait le programme du gouvernement. Donc ça marche moins bien aussi quand même, hein, mais évidemment qu'il va jouer cette carte.
Le Premier ministre va se mettre davantage en avant. Est-ce que l'idée aussi, c'est que parmi les membres du gouvernement, l'équipe qui est arrivée, c'était un des plus politiques aussi. C'est celui qui connaissait le métier le mieux d'avant par rapport à toute la vague des nouveaux élus de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on met aussi plus en avant Édouard Philippe Bruno-Cotterêts?
Oui, sans aucun doute.
Il a plus d'expérience que les nouveaux venus, quoi. Hein, voilà.
Il a plus d'expérience. Il était un élu local de longue date. Donc effectivement, il a plus d'expérience, mais aussi, je pense, que c'est surtout qu'Édouard Philippe représente une pièce absolument centrale essentielle, éminente, je dirais même, du dispositif Macron, puisqu'il s'agit de continuer à montrer que, à gauche et à droite, des hommes de bonne volonté pouvaient arriver à travailler ensemble. Donc ça s'est surtout fait à droite, quand même, au début. Il n'y a pas eu vraiment de grosses personnalités issues des rangs de la gauche qui sont venus. On pourrait parler du cas Nicolas Hulot, mais Nicolas Hulot avait toujours eu un positionnement qui était un positionnement difficile à cerner sur l'axe gauche-droite, mais quand même, c'est vrai qu'Édouard Philippe représente non seulement l'homme d'expérience, mais représente aussi, au plan du positionnement politique, au plan du positionnement idéologique, eh bien, ce néo-jupéisme. Et donc qui fidélise une partie de l'électorat de la droite, qui a le sentiment, à travers Édouard Philippe, que peut-être, je vais pousser peut-être un peu loin l'idée, mais peut-être que Alain Juppé, quelque part, a gagné un peu aussi à travers Édouard Philippe, et on sait à quel point l'électorat du centre-droit, à une partie de l'électorat du centre-gauche, avait été très intéressé par la candidature d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre. Donc c'est vrai qu'il représente une pièce essentielle, et par ailleurs, on a beaucoup dit, et je crois qu'on avait raison de le dire, à quel point Emmanuel Macron n'avait pas bien considéré les corps intermédiaires, les élus locaux. Alors c'est vrai qu'Édouard Philippe, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'il est facilement, il peut facilement se glisser dans la peau de quelqu'un qui peut parler aux élus locaux en leur rappelant qu'il est un des leurs et qu'il a été un des leurs. Donc c'est effectivement, sans aucun doute, on va être amené à voir Édouard Philippe un peu plus monté au créneau, mais aussi parce qu'il y a des dossiers qui requièrent l'arbitrage du Premier ministre et que le Premier ministre, normalement, c'est son job de faire ce qu'Édouard Philippe va faire.
Arnaud Mercier, je reviens à l'aspect communication. On va donc voir moins le président, si c'est l'idée. Est-ce qu'il va tenir longtemps ?
Je ne suis pas sûr qu'on va le voir moins. Je dirais plutôt qu'on va le voir mieux du point de vue de la stratégie, de l'élaboration de la stratégie. Le voir mieux, ça veut dire, par exemple, ne plus le voir, sans doute, en tout cas pour l'instant.
Sur tous les sujets.
Sur tous les sujets. Et alors, déjà, sur plus les petites phrases assassines à destination des citoyens qui sont pris comme des traces de mépris. Ça, je pense que il va réussir à se contenir. Bon, peut-être qu'il y en a une qui va sortir une fois parce que bon, voilà. Mais là, je pense que quand même, la leçon à porter, je pense que on va le voir un peu plus, ça a déjà été dit par Bruno Cottès, sur la partie régalienne, et on voit comment il a géré le G7. Et là, le G7, la façon dont il a géré en termes de communication le G7 me paraît très représentatif de l'inflexion qu'il veut faire. Parce que, à la fois, il joue la carte de la représidentialisation par la politique étrangère, la représentation de la France, enfin, etc., qui est un grand classique sous la Ve République, mais en même temps, il a joué beaucoup la proximité, parce que c'était pas, vous voyez, je suis avec les chefs d'État, on se goberge pendant que vous continuez à trimer, etc. C'est, regardez, c'est très important pour l'environnement, pour le pouvoir d'achat, pour ceci, donc c'est en prise directe avec vos préoccupations, je viendrai rendre compte, donc il est venu avant, il a fait une déclaration, il a fait une interview après, et donc il y avait toujours cette idée, vous voyez, je suis là pour m'expliquer, pour montrer à quel point, tout ça. Donc je pense que c'est pas moins, mais c'est mieux, vous voyez ce que je veux dire, au sens de mieux penser la manière d'éviter un certain nombre de reproches qui lui ont été faits.
Il nous reste peu de temps. Un autre signe, et je reviens à l'actualité peut-être un peu plus immédiate, de la baisse de l'apparent adoucissement, la réaction assez mesurée hier soir à l'officialisation de la candidature de Cédric Villani à la mairie de Paris, alors que Benjamin Griveaux a été désigné par le parti présidentiel. Là aussi, c'est peut-être pour montrer qu'on est un peu moins brutal, ou c'est simplement pour ne pas insulter l'avenir, Bruno Cottès, si jamais.
Ne pas insulter l'avenir, évidemment. Vous savez, les élections, et notamment celle-ci, et notamment avec ces configurations de candidature, c'est un grand jeu de poker menteur. Il s'agit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il s'agit de ne pas dévoiler toutes ses cartes tout de suite. Ce sont des points fondamentaux de la stratégie politique. On imagine que l'enjeu est tellement important pour La République En Marche d'avoir de gagner la mairie de Paris, qu'on se consolerait sans aucun doute si Cédric Villani gagnait cette élection et que Benjamin Griveaux retourne à ses chères études.
Absolument d'accord avec Bruno Cottès.
Merci beaucoup Bruno Cottès et Arnaud Mercier. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner, de retour tout bronzé. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est lundi, même heure, même endroit. Demain, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour les dessous de l'Infox. Bonjour chez vous.